la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans L'air de rien, nous allons parler de la santé des adolescents à l'occasion d'un colloque qui s'appelait « La métamorphose des liens à l'adolescence » qui s'est tenu donc du 8 au 10 octobre à la salle Thérèse Daudet. Et nous avons pour en parler Philippe Rougoulot. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Le directeur de la MDA, c'est-à-dire la Maison des adolescents. Et avant de parler du colloque, des spectacles, puisqu'il y avait en plus pour le colloque pour les professionnels, mais il y avait aussi des spectacles ouverts à un plus grand public. Il y avait un guide aussi à donner aux, enfin que vous avez donné aux élus hein, par le biais des mairies. Donc un sujet très vaste. On l'a intitulé « La santé des adolescents ». Et le guide, c'est la santé mentale des jeunes. Donc, il y a un problème vraiment très important aujourd'hui. Et je voudrais, avant qu'on en parle plus en détail, enfin que vous en parliez en détail, que vous nous précisiez ce qu'est la MDA, où elle est, ses buts, ses objectifs, ses réussites, ses problèmes, etc. etc., etc.
Ok, merci beaucoup pour l'invitation. C'est l'occasion de donner un petit coup de projecteur sur cette question-là, de comment vont nos adolescents dans le Gard, mais plus globalement un peu partout en France. C'est sur cette base-là, sur ce constat que s'est fondée la création des maisons des ados en 2005. C'était à l'époque Claire Brisset qui était la défenseure des enfants. Qui portait la voix des enfants, hein, du coup, et qui disait voilà, ce qui manque dans le paysage de l'offre en direction des adolescents, c'est un espace dans lequel ils peuvent spontanément, de manière très anonyme, venir déposer une préoccupation, une question, une souffrance ou une difficulté.
Des lieux, quoi, un lieu de repère.
Un lieu dans lequel ils vont pouvoir trouver un adulte professionnel, mais d'abord un adulte de confiance qui va savoir les accueillir et les écouter et pour les aider à cheminer dans leurs questionnements, essayer de trouver avec eux des manières d'agir ensuite qui vont leur permettre d'aller mieux.
Ils viennent spontanément ou il y a des, comment dire, entre guillemets, de la publicité pour ce lieu? Comment viennent-ils?
Ils viennent parce qu'on a passé beaucoup de temps à se présenter au démarrage de la structure. On est, nous, dans le Gard en 2009-2010, à ce moment-là, quand on crée le dispositif, et on est allé beaucoup, et on continue de le faire, se présenter dans des établissements scolaires, dans des forums santé organisés avec les collègues du CODES, avec l'assurance maladie, ou à d'autres occasions. C'est toujours intéressant de rencontrer des jeunes là où ils sont, dans leur groupe classe, par exemple. On les fait venir aussi chez nous, on a des groupes de délégués ou des classes entières qui viennent découvrir ce qu'est la MDA, en vue de travailler un petit peu le repérage pour que chacun soit en capacité de venir
seul après,
tout seul, spontanément se présenter. Et donc on a un lieu, maintenant il y en a deux puisqu'on a une antenne sur Uzès, ce sont deux lieux qui sont très banalisés du point de vue de la déco, de la configuration, c'est on dirait une chambre d'adolescent, quoi. Enfin, il n'y en a pas qu'une typique, mais on a essayé de créer un lieu assez neutre. Le premier enjeu pour nous, il est celui de notre capacité à créer ce lien de confiance. C'est assez compliqué pour un adolescent d'abord d'identifier le fait qu'il est dépositaire d'une question et qu'il faudrait et qu'elle est légitime, qu'il peut venir en parler. C'est un chemin qui n'est pas facile. Ensuite, faire une démarche d'aller en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est aussi très compliqué. Donc on a essayé de lever un peu toutes ces barrières-là en disant voilà, n'importe quel ado peut venir se présenter à la MDA. Il y en a qui viennent et qui poussent la porte et qui vont sur une table faire leurs devoirs. Il y en a d'autres qui vont sur Internet. Et puis petit à petit, on voit dans ce sas d'apprivoisement qui s'autorise à ensuite solliciter une aide. Et donc la règle du jeu, c'est je dis bonjour quand j'arrive, au revoir quand je pars. Ce qui se passe entre les deux, ça appartient à l'adolescent.
D'accord.
C'est-à-dire s'il arrive et il se dit je m'appelle Mathieu, ben on l'appellera Mathieu. On n'a pas besoin de connaître son identité, il n'y a pas de carte de sécu.
Et il y a toujours quelqu'un, c'est constamment ouvert ou il y a des permanences? Comment ça se passe? Et où c'est déjà cette MDA à Nîmes?
Alors deux antennes, ouais, celle de Nîmes se situe au 34 Terre rue Florian, c'est derrière la brasserie Le Pantel, là, à côté de la place de l'Air du Sceau. Celle d'Uzès est rue Joseph Lacroix. On est sur des dispositifs qui essayent d'être ouverts au maximum, une amplitude 10-19 toute la semaine. Il y a des matinées où on est plutôt sur rendez-vous. Sinon, sur le reste du temps, c'est des accueils spontanés. Quelqu'un se rend toujours disponible pour accueillir un adolescent quand il veut parler, on essaie de saisir ce moment qui est parfois fragile, hein, d'un adolescent. Quand c'est le moment, ça déborde, il faut que je parle maintenant. Ouais. S'il n'y a pas d'oreille pour l'écouter, on passe à côté de quelque chose.
Et c'est plus facile pour eux que d'aller chez un psy, parce que cela, c'est spontané, en fait. Enfin, c'est... Oui, ils viennent à deux, ils viennent tout seuls, ils viennent...
Alors, ça a pas mal évolué. Ça. Au début, on avait beaucoup de jeunes qui venaient orientés par le médecin généraliste, l'infirmière scolaire, un enseignant, notamment. Plus on est repéré et plus ils sont auto-orientés, j'allais dire, où ça passe par du bouche à oreille entre copains, un copain qui est déjà venu.
Pour... Oui, tu devrais y aller, c'est bien.
Oui, ça c'est le meilleur ambassadeur pour nous, parce qu'il y a un tiers de confiance là qui facilite la démarche.
Et la confidentialité. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de nom et puis il n'y a pas de mauvaises questions. C'est ce qui fait l'intérêt de l'accueil MDA, c'est que c'est un accueil pluridisciplinaire, donc on a différents métiers. Oui. Et donc les adolescents, ils peuvent vraiment choisir d'évoquer avec un professionnel quelque chose qu'ils sont en capacité d'évoquer, qui parfois n'est pas la problématique majeure, mais c'est par là qu'ils ont envie d'entrer.
Ils détournent.
Voilà, ils détournent parce que peut-être le problème qui les traverse est plus intime, plus difficile, une question intrafamiliale, une question très intime, et ils viennent sur un autre prétexte qui est plus facile, en espérant bien que le professionnel va entendre, qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus compliqué à entendre.
D'où l'importance des professionnels et ce colloque, l'angle qui s'est tenu avec la métamorphose des liens à l'adolescence, c'était réservé à des professionnels. Moi, je suis venue voir les spectacles le soir, qui étaient ouverts à plus, et c'était intéressant de, j'allais dire, désacraliser un petit peu le problème, de montrer qu'on peut le faire avec humour. Et je pense que l'humour est important tout de même. Enfin, je ne sais pas si les jeunes comprennent beaucoup l'humour, je parle dans vos rendez-vous, mais ça peut être un bon moyen peut-être d'entrer.
Je pense un très bon levier, effectivement. On a vraiment fait un colloque en direction de trois publics, avec la volonté que ces publics se mixent. C'est évidemment un colloque en journée, donc c'était d'une amplitude de 9h-20h, avec du contenu académique en matinée. Chaque demi-journée était ponctuée par un temps d'une heure et demie où on proposait à des équipes de terrain qui sont déjà auprès d'adolescents, des éducateurs, des infirmiers, dans des maisons d'enfants, des ITEP, des CESAD, des structures partenaires, de donner à voir ce qu'ils inventent au quotidien pour rentrer en lien, pour travailler les accompagnements auprès d'adolescents. On a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans le Gard, et j'en profite pour les remercier à l'antenne, beaucoup d'équipes qui inventent au quotidien des nouvelles manières d'écouter, des nouvelles manières d'accompagner, des dispositifs, des outils.
Donner un petit peu des clés. Parce qu'il y a la théorie, mais je pense qu'il faut vraiment faire la pratique.
Faut les deux. Donc, on avait effectivement des intervenants plutôt académiques, universitaires, qui venaient amener du contenu issu de recherche. Et puis, voilà, des équipes de terrain qui sont venues témoigner de ce qu'elles faisaient au quotidien et qui étaient autant de pratiques inspirantes pour tous les autres professionnels qui étaient dans la salle. Donc, ce sont des temps qui ont été très fortement salués parce qu'on donne peu souvent à voir ce qui se fait dans l'intimité d'une maison d'enfants ou d'un ITEP. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce n'est pas des lieux qu'on visite, ce n'est pas des lieux ouverts au public. Non. Et donc, souvent, des choses qui pourraient servir à d'autres restent finalement là, au sein d'une équipe. Et là, on voulait vraiment insister sur ce potentiel de créativité qu'il y a dans ces équipes-là. On est sur une période de morosité ambiante. Et donner à voir qu'il y a du possible, qu'il y a de la créativité, ça insuffle un élan de vie.
Oui, il y a une sorte de pessimisme général en disant, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, etc. Ouais. Et il faut lutter contre ça.
Il faut lutter contre ça.
Il y a toujours des solutions. Et ce qui est très bien, c'est le partage. Et moi, qui suis arrivée un peu à la fin du colloque pour voir un peu le public, on sentait une écoute. Hein, et j'étais, la moyenne d'âge des professionnels n'était pas très haute. Hein, moi, j'aurais dit autour de 40 ans.
On avait des jeunes professionnels, on avait des étudiants en formation, que ce soit à l'Université de Nîmes ou à l'IFME, qui se dédient au service à la personne ensuite. Et puis, comme on avait une formule avec des spectacles en fin de journée de 18h à 20h, on avait aussi ouvert la possibilité à ce que des parents nous rejoignent en fin de journée pour assister à des spectacles qui allaient mettre en scène différemment les contenus théoriques qu'on avait appris dans la journée sur la métamorphose des liens à l'adolescence, mais sous des formes théâtralisées, beaucoup plus sur du sensible que sur du théorique, finalement.
Oui, mais qui était très, très fouillé. Hein. On va parler des deux spectacles. Et les personnes sont restées, les professionnels sont restés.
Oui, hein, beaucoup.
Parce que souvent, on se dit à 18h, on s'en va,
ça y est,
on fatigué.
Et
là, tout le monde est resté.
Non seulement ils sont restés, mais en plus, ils ont accepté de se positionner ensuite en tant que parents.
Ouais.
Et ça, c'était vachement intéressant à entendre parce qu'on a des professionnels qui ont une habitude de terrain et qui se sont livrés aussi au jeu de ben, dans cette représentation théâtrale, on me convoque en tant que parent, donc je réponds en tant que parent.
Ouais.
C'était pas banal. Ouais.
Est-ce qu'on est le meilleur parent quand on est professionnel avec des ados?
Je crois beaucoup à l'adage, les cordonniers sont pas toujours le mieux chaussés. C'est une réinvention à chaque fois.
Ouais. Oui, et puis chaque adolescent est différent. Hein, donc, je veux dire, et puis voilà, c'est son identité, elle est en train de se faire. Et justement, les deux spectacles, on va en parler un peu. Comment vous avez trouvé les deux, enfin Bozo, on le connaît, mais les deux actrices de, c'était deux compagnies qui avaient travaillé ensemble sur, ça s'appelait
Moi, parent d'un ado, et vice-versa. C'est-à-dire, donc c'est une coopération, la Caravole et puis la Volière. Ils sont deux compagnies toulousaines. Et en fait, c'est la maison des ados de Toulouse qui les fait intervenir et qui a dit, tu devrais les inviter sur ton colloque là.
Ah, parce que c'était tout à fait adapté.
Voilà, le spectacle parle vraiment de ce qui se passe. Alors, c'est deux pseudo-ingénieurs qui vont dans le cerveau du parent et de l'adolescent, qui donnent à voir un peu, avec ensuite des mises en situation. Qu'est-ce qui se joue dans le cerveau de l'un et de l'autre, qui fait que parfois la communication est compliquée, les relations sont difficiles.
Oui, et les actrices étaient excellentes parce qu'elles jouaient plusieurs rôles entre les chercheuses, entre les parents, entre le papa, entre la gamine. Et on sentait qu'il y avait une base même très professionnelle. Elles avaient dû parler avec des professionnels, je pense.
Oui, bien sûr, elles font pas ça.
Et les échos du colloque le lendemain, les professionnels qui ont vu le spectacle.
Oui, les gens étaient contents, justement pour ça, parce qu'il y avait une vraie mixité. Donc c'était intéressant aussi d'entendre les questions des parents in vivo quand on propose un temps de conférence ou de spectacle. Et puis, encore une fois, cette idée d'avoir un forum qui donne à voir les initiatives dans les équipes. Je crois qu'on va encore nous travailler à la MDA pour renforcer cette dimension-là. Il y a beaucoup de potentialités sur notre département. Il faut que les gens sortent de chez eux et donnent à voir ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup de pratiques inspirantes. On a eu aussi des témoignages très très forts d'adolescentes ou d'adolescents. Et tout ça doit être mieux partagé entre professionnels pour favoriser une intelligence collective.
Enfin, il y a des films qui ont été faits, des documentaires, des reportages, pour ce qui se passe dans les maisons de santé pour les adolescents. Et c'est toujours très, très instructif et un peu déstabilisant. Hein, parce qu'il y a tout de même, il faut être très réactif. Hein, je pense qu'on ne peut pas cerner tous les cas de figure, hein. Vous devez tout de même être soumis à des imprévus, à des nouveautés, non ?
Toujours. L'adolescence a ce site particulier qu'elle échappe toujours hein, à la manière dont l'adulte l'envisage. Et c'est son ressort et c'est ce qui fait ça, aussi tout l'intérêt du métier et c'est ce qui fait aussi la spécificité hein, de cette tranche de vie-là. Je pense que c'est souhaitable que les adolescents et des univers, construisent des univers qui leur appartiennent et qui sont incompréhensibles pour les adultes jusqu'au moment où ceux-ci arrivent à les rattraper.
Pourtant, on a été adolescents, mais bon, souvent, les années sont passées, la société a évolué, les technologies ont évolué, donc...
Mais on a quand même...
Notre propre expérience, je ne sais pas
si... Elle n'est pas suffisante. Il y a quand même des invariants qu'on a identifiés, qui sont assez clairement établis. Hein, ça reste une période d'exploration identitaire, de confrontation à l'autorité, d'expérimentation des limites. Ça, c'est des ressorts, j'allais dire, de la dynamique adolescente qui sont connus. Mais ces ressorts, ils s'expriment dans des contextes sociétaux aussi très différents.
Très différents.
Avec la famille est très différente, la société est différente, la perception de l'avenir et de soi dans l'avenir est très différente. Donc, comment on accompagne quand même sereinement tout ça.
Alors, vous avez choisi comme pause musicale Pomme, la jeune chanteuse Pomme, parce qu'elle a travaillé sur ses problèmes d'adolescence, elle s'est investie dans...
Oui, tout à fait. On a vu fleurir depuis quelques années et c'est vrai que la grande cause nationale santé mentale a aidé aussi là-dedans. On a vu le monde artistique aussi venir témoigner sur la scène publique de ce que c'est que la santé mentale. Et Pomme, elle a fait partie de ces artistes qui ont pu explorer des questions de santé mentale pure, la question de l'anxiété, la dépression, etc. Une parmi d'autres, le monde sportif aussi s'y est beaucoup mis. Je crois que c'est important que des gens qui sont comme ça, des vrais porte-voix dans la société, puissent assez facilement et de manière très sincère, évoquer ces questions-là.
Partager aussi leurs expériences, plus ou moins autobiographiques, mais c'est le rôle de l'art. Et on va écouter donc Pomme, l'anxiété. Mais restons optimistes.
Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on entend pas.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Philippe Rigoulot, le directeur de la Maison des Adolescents donc, à Nîmes, qui nous a parlé donc, de ce colloque réservé aux pros, professionnels, pardon, et puis des spectacles qui, utiles à tout le monde. Il y a eu un second spectacle avec Bozo, et je ne connaissais pas personnellement Bozo, mais je le trouve très dynamique et j'ai apprécié le fait qu'il sollicite des adolescents à monter sur scène, c'est jamais trop facile, et d'improviser. Donc, c'était un spectacle complètement différent. Mais
oui, là,
ça s'appelle Le Lien.
Le Lien.
Et c'était un peu déstabilisant, je dirais. Mais vous l'aviez sollicité pour ça, en fait, pour déstabiliser.
En fait, voilà, ce spectacle, je le connaissais, je l'avais vu à sa création en 2017. Mmh. Et on est au cœur du sujet. Hein. Alors, c'est une forme artistique un peu difficile à décrire. On est entre le concert, le slam, la théâtralisation. Et puis, effectivement, il y a une dimension très participative. En l'occurrence, là, au milieu de performance, il fait monter sur scène des jeunes. Là, en l'occurrence, c'était des jeunes du conseil départemental des jeunes qui étaient là, pour qu'ils composent en arrière-scène un petit texte sur des notions clés autour de l'amour et du lien. Et pendant ce temps-là, les musiciens continuent le spectacle. Donc il y a cette interactivité. On est là avec un jongleur de mots. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à faire tourner tout ça dans sa bouche et à interpeller comme il sait le faire de manière très vive, avec une pointe de désinvolture, de provocation.
Provocation, oui. Je sentais dans la salle quelquefois des personnes un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait?
Mais beaucoup de poésie aussi à la fois. Beaucoup de poésie aussi. Et c'est une autre manière de penser la question adolescente avec tout ce que ça suppose de transformation. Là, on était jusque dans l'intimité de la chambre de l'adolescent avec ce chat qui le regarde, et puis jusqu'à de l'interpellation très politique.
Hein. C'est bien sûr.
Comment tu te projettes dans l'avenir, etc. Donc, beaucoup d'énergie sur ce spectacle. Et il y a toujours, comme avec la caravole et la volière, derrière un petit bord plateau, un temps d'échange qui permet à chacun de partager des ressentis, puis de partager parfois des expériences aussi personnelles.
Ouais.
Donc, on est sur de la coéducation, quoi, finalement. Comment on fait en famille?
Et ben, c'est ça, hein, le but, en fait, de la MDA, c'est que c'est une famille. Hein, voilà. Bon, ça s'appelle maison des adolescents, mais il y a les parents derrière, les frères et sœurs, et c'est vrai que c'est compliqué. Et vous avez fait la transition, merci Philippe, en disant via un arrière-plan politique, et c'est pour ça que vous avez édité donc ce guide, La santé mentale des jeunes, guide pratique à l'attention des élus du Gard.
Oui, tout à fait.
Il est dense, hein. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu toute le sommaire, et il faut vraiment apprendre aux élus ce qu'est la santé mentale.
Alors, je crois qu'il y en a qui savent très bien ce que c'est. Notre intention là-dessus, c'est un guide qu'on a construit avec l'association des maires et présidents de PCI, présidé par M. Ribaud, que je remercie au passage. Notre idée, c'était, on a un alignement de planète. 2025, la santé mentale est grande cause nationale. 2026, on a des élections municipales. La place de l'élu local sur des enjeux de santé des jeunes sur les territoires, elle est majeure. Et on a beaucoup d'élus qui nous disent être d'ailleurs assez démunis face à leur public adolescent sur leur territoire. Il y a des initiatives qui sont tout à fait louables à gauche et à droite. Notre intention, c'était de dire, sur des enjeux de santé mentale, d'abord, de quoi on parle? Le guide, il a trois parties. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est la santé mentale? On passe un peu rapidement en revue quelques éléments descriptifs.
C'est vrai que ça fait peur, hein, dès qu'on dit le mot santé mentale, on se dit, ils sont fous.
Ouais. Alors qu'on parle de santé globale, hein, au sens OMS, et la santé mentale des adolescents en fait partie. De quoi on parle exactement? Quel est l'état de la question, y compris dans le département du Gard? Quelle est la prévalence du recours aux hospitalisations, etc. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Il y a un deuxième axe autour de la place de l'élu, hein, local, qui a une place très spécifique sur des protocoles particuliers. Et puis, troisièmement, c'est quels sont les leviers à sa main en tant qu'élu local? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et ce guide, il cherche il donne à voir à ses élus locaux tout ce qui est à leur main, et qui peuvent engager d'ores et déjà sur leur territoire pour engager des politiques de prévention sur le bien-être des jeunes. On ne parle pas tellement de santé mentale des jeunes, on parle de bien-être, accompagnement du bien-être. Donc ça passe par des équipements sportifs, ça passe par une politique culturelle un peu renforcée, ça passe par comment j'équipe les rayonnages de ma médiathèque, comment j'accueille des espaces de parole pour des parents, pour des adolescents, comment j'acculture mes équipes à des formations type premier secours en santé mentale qui sont...
C'est un travail d'équipe, hein, vous adressez à tous les élus, pas aux élus de la santé.
Oui, c'est vraiment l'ensemble des élus locaux, et c'est vraiment cette idée qui prennent la mesure du fait qu'ils ont des leviers à leur main, et il faut les acculturer à ces enjeux-là et les accompagner dans ce sens. Et c'est pour ça qu'en parallèle de ce guide, on a construit aussi une petite enquête qui a été distribuée ensuite par l'AMF, qui cherche justement à connaître de la place de chacun des élus locaux, quelle est leur réalité quotidienne dans leurs interactions avec les jeunes sur leur territoire, et qu'est-ce qui fait difficulté pour eux et sur quoi ils souhaiteraient être accompagnés. Nous, notre posture, c'est vraiment de dire, on est là pour vous écouter, pour vous accompagner en tant qu'élus locaux. N'hésitez pas à nous interpeller pour qu'on essaie de voir ensemble comment on pourrait vous outiller pour développer des politiques jeunesse pour demain.
Donc ce guide, il est national, en fait. Il n'est pas que pour le 30,
Il pourrait l'être. On a fait, nous, une focale sur le 30 pour que les élus prennent la mesure aussi de comment cette question, quelle prégnance elle a dans le territoire. Mais effectivement, les préconisations, elles sont déclinables dans chaque collectivité territoriale.
Il ne faut pas oublier que les élus sont aussi des parents.
Absolument, donc je les invite à revisiter leur propre adolescence aussi, et puis leur fonction parentale pour se dire finalement, de quoi aurait eu besoin mon enfant, mon adolescent à telle période, de quoi moi j'aurais eu besoin, et pour qu'on puisse cheminer sur ces réflexions-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de briser entre guillemets des tabous, c'est-à-dire moi j'ai pas de problème avec mes ados ou les ados moi j'ai pas de problème avec mes parents, parce que vous parlez de déstigmatisation, hein, de vous parlez de prévention, d'accès aux soins, les interventions, la parole se libère tout de même, et puis tous les adolescents n'ont pas de problème tout de même.
Ah non, bien sûr, heureusement il y a une grande proportion d'adolescents qui va bien. C'est vrai que ce qui nous inquiète, c'est depuis 2019-2020, des indicateurs qui se dégradent. Il y a eu plusieurs enquêtes, une enquête en classe et puis encore une enquête en 2025 qui disent que quand même cette santé mentale se dégrade. Et notre intention, c'est de faire alliance avec les élus locaux, c'est-à-dire on ne pourra pas tout faire tout seul. Mmh. Chacune et chacun d'entre nous, en tant que, j'allais dire même adulte, a une responsabilité dans son rôle à jouer en direction des adolescents. Comment on se rend disponible pour écouter un adolescent en souffrance, parfois une souffrance à bas bruit? Comment on se rend disponible pour une écoute sensible et comment on peut accompagner, soutenir. Donc, la formation Premier Secours Santé Mentale, elle aide à ça. Mmh. Elle forme des secouristes qui sont capables d'accueillir une parole, d'écouter et d'orienter.
Il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs, il y a des comportements non-verbaux d'ailleurs.
Oui, qui doivent pouvoir nous alerter. Alors, on ne devient pas psychologue avec cette formation, on devient secouriste. Donc, c'est 2 jours de formation, c'est pas non plus. Mais ça permet quand même de devenir acteur. Je crois que c'est la question de générer un premier mouvement et une capacité d'empathie pour que les adolescents perçoivent que sur les territoires, il y a des gens qui sont prêts à les écouter, à les accompagner et à les soutenir. L'adolescence, elle peut faire peur parfois. On a des jeunes qui sont en groupe, on a des jeunes qui sont bruyants.
On sait que le comportement en groupe n'est pas le même que...
Bien sûr, ça peut impressionner tout ça.
C'est vrai que les ados, c'est peut-être une des caractéristiques, aiment se regrouper, aiment être en groupe. Ça les rassure?
Ah ben, ça fait partie de la construction adolescente. Hein. Comment je me sépare du groupe famille pour me raccrocher à un groupe de pères et comme ça construire ma propre identité en dehors de celle de ma famille.
C'était bien montré dans le spectacle, dans la scène où il y avait le papa et la fille qui conduisaient, enfin chacun dans la voiture. C'était à mourir de rire.
Ouais, c'est très très bien joué.
Il y a le vocabulaire aussi, il y a tout ça. Question de base que j'aurais dû poser plus tôt. Un adolescent maintenant dit que c'est de plus en plus jeune. On parle de pré-ado à 11-12 ans.
Oui, alors c'est vrai, bon, ça c'est des débats, je veux dire, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est à partir de quel âge un jeune se sent en capacité, s'autorise à venir porter une préoccupation, une difficulté, et la partager avec nous pour être accompagné. Effectivement, l'adolescence s'étire dans les deux sens, plus jeune et puis plus tard aussi, parce que, ben, en fait, on se rend compte que l'insertion par l'emploi, ça ne fait pas tout, et qu'il y a tout un tas de choses à travailler en amont. Donc nous, si on arrive déjà à faire en sorte que cette question de la santé mentale des adolescents soit parlée dans l'espace public pour la campagne 2026, ça sera pas mal. Donc on va faire on va organiser une ou deux matinales à la MDA, on va inviter les élus à venir discuter avec nous de ça. Et si on fait en sorte que ça puisse déjà sortir dans l'espace public, ça sera un grand pas.
Donc toujours beaucoup de projets. Et ce colloque, c'était la première fois qu'il y avait un colloque ou vous le faites régulièrement?
Oui, très régulièrement. Là, on avait eu un peu moins le temps de le faire ces dernières années, mais là on va refaire ça correctement.
Oui, et puisque comme vous avez dit, les objectifs, hein, 2026, et puis bon, les municipales, il faut que les élus soient convaincus. Et c'est un travail, je répète, là vous parlez du 30, ce qui est déjà bien, bien grand, mais c'est national, je dirais que c'est même européen, c'est même mondial.
Tout à fait, il y a des ados partout.
Merci Philippe, et bon courage à la MDA, puisque vous êtes 25 salariés, hein, donc c'est une équipe...
On commence à être conséquent, il y a du besoin. Merci beaucoup.
Merci à vous.